Décryptage. Clotilde Dumais.
Le monde en produit 460 millions de tonnes chaque année. Il est présent partout dans notre quotidien, bouteilles, sacs, emballages, vêtements. En quelques dizaines d'années, le plastique a envahi notre planète, nos sols, nos océans, avec des conséquences sur l'environnement et sur notre santé. Et si rien n'est fait, les déchets plastiques devraient tripler d'ici 2060. Alors il y a deux ans, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement s'est fixé un objectif, lancer des négociations pour élaborer un traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Le texte doit théoriquement être rédigé d'ici la fin de l'année lors d'une dernière réunion en Corée du Sud, mais en attendant, les discussions vont se poursuivre dès demain à Ottawa, au Canada. Alors que faut-il attendre de ce rendez-vous? Où en sont les négociations? La communauté internationale peut-elle s'accorder sur un traité ambitieux? On en parle ce soir dans Décryptage. Et nous sommes en ligne avec Eva Moreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous dis bonjour parce que vous êtes en direct d'Ottawa au Canada, où il est donc 14h11 actuellement. Vous représentez sur place la fresque du climat. C'est un peu le même concept hein, pour ceux qui connaissent que la fresque. La fresque du plastique, qui est justement le même concept que la fresque du climat. Donc, un atelier qui peut être proposé dans des écoles, par exemple, des entreprises ou bien pour le grand public, pour justement faire découvrir aux participants tout le cycle de vie des plastiques et les sensibiliser donc à cette pollution. Et puis, nous sommes également au téléphone avec Nathalie Gontard. Bonsoir.
Bonsoir, Clotilde.
Directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous travaillez sur le plastique depuis une trentaine d'années. Alors pour commencer, peut-être un mot d'abord sur l'ambiance à Ottawa, Eva Moreau, puisque vous êtes sur place. Les discussions entre les négociateurs de 175 pays commenceront officiellement demain, mais des dirigeants sont déjà arrivés sur place ce week-end, notamment le ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a annoncé la semaine dernière que l'objectif était d'avoir un traité ambitieux. Est-ce que vous sentez, Eva Moreau, une réelle envie justement d'avancer sur ce projet? Quel est votre état d'esprit et celui des différents participants que vous avez peut-être déjà rencontrés?
Oui, tout à fait. Nous, on est très impatients de voir comment va se dérouler ce traité. C'est un traité qui va s'avérer stratégique. C'est le moment où le traité peut devenir ou ambitieux ou vraiment moins ambitieux. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt un empilement des propositions des différents États et pas forcément une négociation. À titre d'exemple, on est passé de 30 pages à 70 pages de propositions entre les deux dernières réunions. Les négociations en tant que telles n'ont pas énormément avancé. Là, on a vraiment deux camps qui s'affrontent. Un camp qui prône plutôt la réduction de la production, qui est la coalition de la haute ambition, plutôt portée par la France et des pays européens. Et un camp qui prône plutôt une meilleure circularité, plutôt des pays pétroliers. La France soutient vraiment les propositions ambitieuses. On a rencontré le ministre ce matin qui nous a reconfirmé cet état d'esprit. Donc il y a un gros enjeu aujourd'hui à convaincre les pays qui restent indécis encore sur ce choix et que veut devenir ce traité.
Alors vous avez résumé effectivement pas mal d'enjeux qu'on va détailler au cours de l'émission. Pourquoi c'est important selon vous, Nathalie Gontard, de rédiger un traité mondial contraignant sur la pollution plastique et qui prend aussi en compte la pollution dans le milieu marin où le plastique représente quand même 85% des déchets?
Alors c'est important parce que le plastique constitue un réel danger pour notre environnement, pour nous, mais aussi pour toutes les générations à venir. Et donc c'est un matériau, je voudrais quand même juste le rappeler, parce que souvent on a tendance à l'oublier, c'est un polluant qui est très persistant. Le plastique se dégrade très rapidement, se fragmente, il produit des micros, des nanoparticules, qui vont ensuite voyager dans tous les compartiments de notre écosystème. Ils vont se charger en polluants et ils vont voyager jusqu'à l'intérieur de nos propres organismes. Et ce faisant, c'est un polluant qui ne s'insère dans aucun des cycles biogéochimiques qui stabilisent nos écosystèmes, qui les déstabilise, qui en perturbe le bon fonctionnement et qui perturbe aussi le bon fonctionnement de tous les organismes vivants, y compris le nôtre, car aucun organisme ne dispose des outils biologiques pour le digérer, pour s'en débarrasser. Donc le résultat, c'est qu'il s'accumule absolument partout. créant ce que l'on appelle une empreinte plastique, à ne pas confondre avec l'empreinte carbone. Et donc, je crois que ce traité est important parce que nous devons avoir à l'échelle internationale une bonne compréhension de la problématique et du danger des plastiques pour pouvoir prendre ensuite les bonnes mesures qui s'imposent derrière. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a des enjeux économiques qui s'opposent à toutes ces mesures-là.
Alors, on en est là, la quatrième et avant-dernière réunion, avant celle qui est donc prévue en fin d'année en Corée du Sud, où on devrait théoriquement finaliser le traité. Pour l'instant, vous l'avez dit, Eva Moreau, les dernières discussions au Kenya en novembre 2023 n'ont pas vraiment avancé. Pourquoi est-ce que les négociations patinent jusqu'à présent, selon vous, Eva Moreau ?
Je dirais que la plus grosse raison, elle est avant tout réglementaire. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, en tout cas c'est en discussion, les discussions sont en cours sur comment sera validé ce traité. Est-ce qu'on aura plutôt un consensus ou est-ce qu'on aura plutôt un vote ? Même si le consensus sur le papier peut paraître la meilleure option, en fait cette option, elle donne aussi à chaque pays un droit de veto. Alors qu'un vote permettrait de potentiellement avoir un traité plus ambitieux. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va vers un vote, quel est le pourcentage de votes qui feront que ce traité sera validé. Est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est 90%? Ça reste encore à définir. Mais il y a quand même 66 pays dans la coalition de la haute ambition sur les 175 pays présents aux négociations. Nous, en tout cas, en tant qu'ONG, on essaie de militer beaucoup pour que ça soit un vote et pas un consensus. Sur le contenu même.
Est-ce qu'il y a aussi l'influence des lobbies de grandes entreprises, autre sujet, mais c'est vrai que voilà, les lobbies ont été très présents, notamment par exemple à la COP28 à Dubaï. Est-ce que là aussi, ils pèsent beaucoup dans les discussions, au-delà de l'aspect réglementaire ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas les chiffres qui sont encore sortis pour cette discussion à Ottawa, mais effectivement, lors de la dernière négociation, il y avait 143 lobbyistes pétrochimiques contre 38 scientifiques. On aura sûrement la liste demain, mais on va regarder ce chiffre de très près.
Alors en plus de tout ça, il y a certains pays effectivement qui freinent aussi les négociations concernant ce traité. Je pense notamment aux pays du Golfe, à la Chine, à la Russie, aux États-Unis pour ne citer que des pays pour la plupart producteurs de pétrole qui n'ont, on l'imagine, pas intérêt, Nathalie Gontard, à être soumis à un traité juridiquement contraignant.
Évidemment, les pays producteurs, le plastique, c'est quand même leur gagne-pain. Donc, ils font obstruction aux négociations, les ralentissent au maximum avec l'appui des lobbies industriels. Ça, c'est une évidence. C'est ce qui a quand même bloqué jusqu'à présent, je crois qu'Eva nous l'a bien expliqué, les négociations. Donc, ce point de blocage étant le processus de décision, est-ce qu'on prend les décisions à la majorité ou au consensus ? Et évidemment, les pays producteurs soutiennent le processus le plus contraignant, c'est-à-dire le consensus. Voilà. Donc, ça, c'est évident que ça va ralentir. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au départ, lorsqu'on a cherché à lutter contre la pollution plastique, on s'est focalisé sur le déchet. Ne pas jeter, mais réutiliser, recycler, interdire l'usage unique, etc. Et donc, ça reste encore extrêmement important dans ce texte. Le terme cycle est cité plus de 64 fois dans le premier draft là, qui a été proposé. Or, je voudrais quand même rappeler que l'effet de travailler uniquement sur le déchet est extrêmement réduit sur la pollution, parce que la pollution démarre dès la production. C'est-à-dire qu'un plastique va commencer à se dégrader dès le début. Et donc, il va commencer à émettre des microplastiques. Et ça, c'est quand même très important. Et là, maintenant, on est passé sur la production. Alors évidemment, les pays producteurs se défendent, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai envie de dire, attention, n'oublions pas l'usage, les utilisateurs, la production, l'utilisation de plastique est proportionnelle au PIB. Nous sommes les premiers consommateurs. Et je crois qu'il ne faut pas oublier l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que nous sommes ceux qui tirent la production et nous sommes aussi ceux qui rejettent le déchet. Donc il faut que les pays consommateurs, c'est-à-dire les pays les plus riches de la planète, se posent des questions sur les usages qu'ils font du plastique et qu'ils se demandent quelles sont vraiment les utilisations de plastique qui qui mérite que l'on prenne autant de risques vis-à-vis ensuite des générations à venir.
Alors Eva Moreau le disait tout à l'heure, hein, en face il y a quand même, c'est vrai, une coalition d'une soixantaine de pays qui est emmenée par le Rwanda et la Norvège, qui disent, qui prétendent avoir davantage d'ambition pour ce traité. La France fait partie de cette coalition et d'ailleurs à Paris, il y avait eu la deuxième réunion hein, sur ce traité contre la pollution plastique organisée en juin 2023. À cette occasion d'ailleurs, le président de la République Emmanuel Macron s'était exprimé dans un message vidéo, on écoute.
Nous savons qu'il nous faudra investir dans les solutions de traitement et de recyclage partout dans le monde, si nous voulons éviter que la croissance démographique et économique des pays en développement se traduise demain par une pollution plastique massive de l'océan et de l'air. Il nous faut définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable qui consiste à produire le plastique en Chine ou dans les pays de l'OCDE pour ensuite l'exporter sous forme de déchets vers les pays en développement qui sont pourtant moins bien équipés en système de traitement de déchets. Aujourd'hui, nous extrayons du pétrole pour produire du plastique que nous brûlons ou que nous enterrons quelques mois après. C'est un non-sens économique et écologique. Nous devons innover, d'une part pour développer de nouvelles chaînes de valeur qui permettent de compenser la disparition de ce plastique qui nous était devenu indispensable dans tant de domaines, d'autre part pour que la fin de la pollution plastique soit créatrice de valeur. Sur tous ces sujets, nous sommes interdépendants. C'est pourquoi nous avons besoin d'un traité international juridiquement contraignant.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, par exemple, Eva Moreau ?
Je pense qu'elle est assez vraie aujourd'hui. La coalition des scientifiques prône énormément une réduction de la production plastique pour réduire la pollution plastique. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de découplage qui a été observé entre la production et la pollution. Je trouve ça très important que les scientifiques se positionnent en faveur de cette réduction de la production. Aujourd'hui, il n'y a finalement que 6% de matière recyclée introduite dans le cycle de production du plastique. Donc aujourd'hui, parler beaucoup de recyclage, c'est important, mais aujourd'hui, les chiffres ne sont pas forcément dans ce sens. Et je voudrais insister sur un point qui aujourd'hui, on ne voit pas forcément de nos yeux beaucoup cette problématique en Europe, mais les chiffres du recyclage au niveau mondial dépendent de travailleurs qu'on appelle des collecteurs de déchets. Aujourd'hui, il y en a à peu près 20 millions dans le monde. C'est des populations qui vivent du ramassage de déchets, principalement par exemple dans des décharges. Donc il y a aussi un enjeu fort à protéger ces personnes-là. 20 millions de personnes, ça représente à peu près la population active française. Enfin, c'est vraiment des chiffres qui sont faramineux. Et leur durée de vie en moyenne est de 39 ans. Donc il y a un énorme enjeu dans ce traité à certes adresser toute la production et aussi plus spécifiquement porter un regard sur différentes communautés et différents groupes qui sont affectés directement par cet enjeu global du plastique. Aussi une autre communauté qui est beaucoup représentée, qui sont les peuples autochtones. Tous les peuples qui sont affectés directement par la pollution sans pour autant utiliser beaucoup de plastique eux-mêmes.
Nathalie Gontard, quelque chose à rajouter sur cette question du recyclage? C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On a l'impression que quand on jette une bouteille dans notre poubelle jaune, eh ben on fait une bonne action. Mais en fait, c'est vrai que ce recyclage est loin d'être suffisant.
Voilà, alors le recyclage, c'est quelque part un narratif hein, qu'on a construit autour de l'économie circulaire. C'est une façon de reboucler la boucle. Le problème, c'est qu'actuellement, les technologies dont nous disposons pour recycler ne bouclent pas la boucle. C'est-à-dire qu'on ne régénère pas un objet à l'identique, mais on va chercher de nouveaux débouchés pour stocker un plastique partiellement dégradé. Donc, ce n'est pas vraiment du recyclage que l'on fait, mais c'est du décyclage. Alors, vous allez me dire, bah, ce n'est pas très grave, c'est presque pareil. Ben non, c'est pas du tout pareil, parce que le décyclage n'a pas d'effet positif sur la pollution plastique. Tout simplement parce que votre bouteille, au lieu de la retransformer en bouteille et de diminuer la consommation de plastique vierge et donc la production de déchets, ben vous allez la transformer par exemple en chaise et vous allez remplacer le bois de votre chaise par du plastique recyclé, mais cette chaise, elle va continuer à se dégrader et une fois que vous aurez qu'elle ne sera plus utilisable, eh bien, vous allez la jeter et elle continuera sa vie, encore une fois, en se dégradant et en polluant en micro et en nanoplastique. Donc, quelque part, ce sont des procédés, des technologies qui nous rassurent et qui nous permettent de continuer à consommer sans effet réel sur une diminution de la pollution plastique. Donc, on peut, bien entendu, qu'on travaille tous là-dessus. La communauté scientifique est mobilisée sur ce sujet, y compris mon propre laboratoire. Mais il faut être réaliste actuellement. On ne peut pas vraiment compter là-dessus pour réduire de façon significative la pollution plastique, puisque ce que l'on fait essentiellement, c'est du décyclage. Et en plus, décyclage, évidemment, on vient le dire, il y a, après les pays producteurs et les pays consommateurs de plastique, il y a tous ceux qui accueillent nos déchets. Et donc, ce sont justement ces pays-là qu'il nous faut protéger, mais qu'il nous faut protéger de nos propres déchets, c'est-à-dire qu'il faut que nous réduisions notre consommation. J'insiste vraiment là-dessus parce que je crois qu'il faut que nous prenions nos responsabilités de pays riches, gros consommateurs de plastique.
Mais ça veut dire, quand on vous écoute, qu'en fait, même si demain on arrête par exemple la production de plastique, qu'on réduit notre consommation, il y aura quand même des microplastiques qui, eux, seront déjà présents dans les sols, dans les eaux. D'abord, quelles conséquences ils peuvent avoir, notamment sur notre santé, sur l'environnement? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, face à ça?
Alors après, c'est évidemment qu'il va falloir travailler à l'élimination de tous ces plastiques qui se dispersent. Parce qu'en fait, on a l'impression, par exemple, que lorsqu'on met des plastiques dans une décharge ou dans une station d'enfouissement, sa vie est terminée. Non, sa vie n'est pas terminée. En fait, c'est tout simplement un grand trou dans lequel on met une bâche en plastique et dans lequel on met des déchets plastiques. Donc ça veut dire qu'à terme, ces plastiques vont continuer à se dégrader et à venir grossir le réservoir de micro et de nanoplastiques. Donc bien entendu qu'il va falloir essayer ensuite de pouvoir peut-être essayer de récupérer toutes ces particules de plastique, mais franchement ça va être très compliqué. Et puis quand même la priorité, c'est de fermer le robinet. Donc ça n'a aucun sens de chercher des solutions pour éliminer ces particules de plastique si on continue à alimenter ces réservoirs en déchets plastiques. Et actuellement, c'est ce qu'on fait. On a une consommation qui est monstrueuse. Alors, s'en prendre à la production, chercher à réduire la production, c'est bien, mais à mon avis, c'est loin d'être suffisant, parce que la force motrice de la production et de la production plastique et de la production de déchets, ce sont nos modes de vie, c'est notre consommation, et c'est ça qu'il faut changer. Et ça, c'est pas seulement de la responsabilité du consommateur, c'est aussi de la responsabilité des industriels de nous proposer des biens et des services avec le strict minimum de plastique, en gardant uniquement les plastiques essentiels. Faut pas rêver, on se passera jamais totalement de plastique, mais on peut réduire considérablement notre consommation, c'est clair.
Pour vous, Eva Moreau, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place si vous voulez réagir? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme solution concrète pour limiter la pollution plastique, si vous aviez quelques exemples?
Je suis totalement alignée avec ce qui a été dit. Je pense que sur la pollution micro et macroplastique, il y a un enjeu aussi à bien savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Il y a des microplastiques qui sont intentionnellement ajoutés dans des produits. Je pense par exemple à des gommages cosmétiques, par exemple, et des microplastiques qui sont générés par l'usage. Par exemple, quand on lave nos vêtements textiles, nos vêtements en polyester, par exemple, dans notre machine à laver, on va fragmenter notre plastique et mettre ces fibres dans l'eau. Entre un pneu neuf et un pneu usé, il y a 2 kilos de différence. Ces 2 kilos, ils ne disparaissent pas. C'est bien une abrasion qui crée des microplastiques sur les routes qui ensuite peuvent se disperser dans les sols et les cours d'eau. Donc il y a deux enjeux sur ces microplastiques. Les microplastiques intentionnellement ajoutés, sur lesquels la réglementation peut énormément jouer, et les microplastiques qui sont générés par l'usage. Et donc là, il y a tout un enjeu à essayer de mieux concevoir pour limiter au maximum ces microplastiques qui sont générés par l'usage même de ce qu'on produit. Je peux donner aussi l'exemple peut-être d'un sachet de thé. Aujourd'hui, quand on met un sachet de thé dans de l'eau, quand il est en plastique, ça relargue des milliers de quantités de microplastiques et de nanoplastiques dans notre tasse. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est évident dans un premier abord. Donc un enjeu énorme, je pense, c'est conscientiser où est-ce qu'on génère de la pollution plastique à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Eva Moreau pour toutes ces pistes, en tout cas de réflexion. Je rappelle que vous êtes co-créatrice de la Fresque du Plastique. Merci également à vous, Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Je remercie également Fabrice Viollet à la réalisation. Merci aussi à Éléonore Krenik, au service documentation de RFI et à la Sonothèque pour la préparation de cette émission, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet et l'application de RFI.